Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David de me passer l'antenne. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13. Un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, c'est jeudi et des fois, le jeudi, nous avons les amis du Théâtre de Dax qui viennent nous rejoindre, nous parler de la pièce qui, en général, se produit le soir même. C'est le cas, comme d'habitude, n'est-ce pas, Anne ?
Exactement.
Voilà. Alors, nous avons aujourd'hui dans le studio, on a du monde. On a Marie Vauzel, qui est la metteuse en scène de Maelstrom, hein, la pièce que vous allez avoir la chance de voir ce soir, je l'espère. Et Cathy Mazer de l'association Des Mains et des Signes qui est une habituée, je crois, des studios parce que ça fait la xème fois qu'elle vient nous voir.
Oui, une fois par an à peu près.
Voilà. Et ben on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir de quoi il s'agit parce que c'est quelque chose d'intéressant qui mêle langue des signes, théâtre, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu la même chose, hein, la langue des signes et le théâtre, c'est aussi des gestes qui expriment des choses. Voilà, on va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve pour la première partie de cette émission. J'ai pour habitude, en général, de demander aux gens leur trajectoire. Hein. Donc, c'est une petite bio personnalisée. Bon, bien sûr qu'elle peut être très longue, hein, suivant les invités, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Bon, et on va commencer peut-être par Cathy, parce que Cathy, bon, vous êtes déjà venue régulièrement. On va juste présenter au moins l'association que vous portez, qui a une cause importante, intéressante.
Oui.
Vite fait. Hein.
Bonjour à tous. L'association des mains et des signes donc, a été créée il y a environ 12 ans. Un an avant, il y a mon premier petit-fils, Timothée, qui est né sourd profond. Et donc lui, il habite Bordeaux, mais ici, dans les Landes, il n'y avait pas d'association telle que j'avais envie de trouver hein, pour rassembler les sourds, les entendants, défendre... les droits et les chances des enfants sourds, promulguer la culture sourde, donner des cours de langue des signes. Voilà, c'était vraiment une bataille pour faire connaître la culture sourde et la langue des signes.
Très bien. Merci beaucoup. Ça va être l'occasion de voir que ça peut converger avec d'autres choses. Bien entendu, on a Marie Vauzel, qui est la metteuse en scène de Maelstrom.
Oui, bonjour.
Bonjour. On aura une petite idée un peu de d'où vous venez et où vous allez, si vous-même vous le saviez.
Oula, quelle question existentielle.
Oui.
Alors, géographiquement, je viens d'Arles. C'est là où j'ai grandi. Moi, j'ai fait... il faut dire un peu ce qu'on a fait, c'est ça?
On dit ce qu'on veut. On a même le droit de mentir, figurez-vous.
Pas mal. Moi, j'ai d'abord fait un peu de la philosophie pendant quelques années avant de rentrer à l'École nationale d'art dramatique de Montpellier parce que j'avais besoin de continuer à penser le monde, mais avec les autres et que j'ai une passion pour la poésie, pour les aventures collectives. Pour l'incarnation aussi des émotions et des textes. Donc j'ai fait ces 3 ans de formation et à l'issue de cette formation, on a créé un collectif à Montpellier, Mobius, voilà, qui a existé pendant, qui existe toujours, mais dont j'ai fait partie pendant 15 ans. Et parallèlement, moi, j'ai créé ma compagnie, la compagnie MAB, parce que j'avais besoin aussi d'un espace plus intime à côté du collectif pour mes préoccupations personnelles plus intimes. Voilà, donc ça c'est la compagnie que j'ai créée à Arles et assez vite, ce qui m'a intéressée, c'est de parler du monde tel qu'il est autour de nous, de choses qui nous brûlent socialement, mais d'essayer de le faire du point de vue du théâtre, c'est-à-dire je suis ni sociologue, je suis pas je suis pas une spécialiste, je suis pas une savante, je suis pas une politique, mais par contre du point de vue de l'artiste, comment on peut partager avec un public le plus large possible des questionnements. J'ai pas de réponse, mais j'ai des questions. Et par l'humour, par la poésie, par l'émotion, par... voilà. Donc c'est un peu ça, ma trajectoire, c'est-à-dire comment chercher, et c'est une recherche à l'infini, et toujours, voilà, le jour où j'aurai trouvé, j'arrêterai.
Oui.
C'est ma recherche d'artiste, en tout cas.
Oui, bien sûr.
D'essayer de parler de ces choses-là, mais par d'autres vecteurs que la raison ou que le discours. Voilà, et de poser sur la place publique et dans l'espace de la parole partagée, des émotions partagées, des choses qui sont peut-être pas toujours visibles dans les médias ou dans voilà. Et Maelstrom, donc Maelstrom est dans cette lignée-là de ce travail que je continue.
Ouais, bien sûr. Voilà, c'est le c'est intéressant aussi de reparler de temps en temps de cette place de l'artiste dans la société. Hein, dont on a besoin, hein, je dis souvent que c'est même indispensable, il me semble que c'est indispensable. Voilà ce rôle qu'il joue, l'artiste. Vous dites que c'est pas sociologue ni rien, mais en fait, sans le vouloir, vous l'êtes forcément quelque part. En tout cas, il y a des conséquences.
En plus, et j'en parle d'autant plus volontiers qu'on est invité là par les ATP, et ça a beaucoup, beaucoup de sens pour moi. Moi, je fais ce qu'on appelle le théâtre public, c'est-à-dire que je considère que mon activité d'artiste a une mission de service public. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis dans une recherche pointue avec des interprètes, comme vous le verrez ce soir, qui sont aussi pointus dans leur domaine, et on cherche vraiment artistiquement quelque chose qui s'appellerait la beauté. Et en même temps, c'est très important pour moi de partager toujours avec le plus grand nombre et d'aller vers des publics qui n'iraient pas spontanément vers le théâtre pour partager à la fois nos questions sur le monde et à la fois nos préoccupations artistiques. Donc c'est très important d'aller dans tous les endroits que la société délaisse. C'est pour moi ça fait partie de mon travail au même titre que le reste.
Très bien, merci, c'est très intéressant. Alors Anne aussi, il y a le fait d'avoir choisi cet artiste, cette pièce-là, je crois qu'il y avait déjà aussi une connexion avec Cathy. Je crois que vous connaissiez déjà et vous étiez déjà sensible peut-être à cette cause, ou alors c'est le contraire, c'est arrivé après ?
Alors non, ça s'est bien passé dans ce sens-là, mais je ne connaissais pas Cathy. C'est Cathy qui est venue frapper à la porte de notre association en janvier dernier. Et c'est vrai que cette idée, nous tournions autour quand même, autour de cette idée d'accueillir un spectacle bilingue depuis pas mal de temps, et puis ça ne se concrétisait pas. En fait, je crois qu'Cathy nous a donné l'élan qui nous manquait. Elle est arrivée avec non pas un projet, mais un désir, même une volonté. Une volonté. Cathy, c'est une opiniâtre. Donc ça tombe bien parce que nous aussi, on a conjugué effectivement nos forces associatives. Vous savez, quand même, les associations sont en grande souffrance actuellement. Et je trouve que c'est une très très belle victoire aussi sur ce plan-là. Que d'avoir travaillé ensemble et d'avoir réussi à amener ce projet à sa réalisation ce soir. Par rapport à ce qu'a dit Marie Vauzelle, mais c'est vrai que je m'inscris complètement dans ton discours, Marie, parce que je m'y retrouve tellement. Notre association, elle est là depuis 50 ans, et si nous avions atteint ce but... le but de cette trajectoire, donc monsieur Jean-Philippe, on ne serait pas encore là. Donc on est toujours dans ce travail-là, toujours dans ce que nous osons dire mission aussi. Nous faisons partie effectivement du service public, nous défendons cette cause, nous essayons d'aller chercher, comme tu le disais, Marie, le maximum donc de spectateurs là. Où effectivement le théâtre ne vient pas. Et nous faisons un énorme travail auprès des scolaires, comme tu le verras, puisqu'il y a une scolaire cet après-midi, 14h30. On touche tous les élèves du département, quel que soit le type de lycée, collège, lycée, agricole, classique, lycée professionnel, parce qu'il faut aller là. Il faut aller là où les choses ne ruissellent pas, en fait. Donc, nous, on est dans ce travail-là, et je me retrouve complètement dans ce qu'a dit Marie tout à l'heure.
Très bien. Alors... il y a une chose qu'il faut préciser d'entrée, parce que bien sûr la sourdité est au centre de la chose, mais on n'est pas dans une traduction pour les sourds d'un spectacle pour entendants. Ça, c'est vraiment la chose que je crois qu'il faut que les gens ils aient bien ça en tête, c'est de ne pas faire cette erreur-là. D'ailleurs, on a une discussion hors antenne avec Cathy qui disait qu'effectivement, dans le cas du théâtre, par exemple, si on avait une personne sur le côté qui est en train de traduire en langage des signes, effectivement, les malentendants, ils auraient un petit problème strabisme, à la fois regarder celui qui signent un petit peu comme le sous-titrage, qui sont mieux placés quand même. Et tandis que là, en plus, comme il y a une des personnes sur scène qui signe, elle est vraiment au centre du dispositif. C'est vraiment pas dans la traduction, ça fait partie de l'œuvre elle-même.
Ah oui, c'était central. Il n'était pas question d'autre chose. C'était aussi un enjeu artistique d'arriver à faire ça, mais c'était absolument important qu'il n'y ait pas une langue qui prime sur l'autre. Et puis, au départ, c'est un texte. Hein, c'est un texte édité qui ne pose pas du tout... Enfin, qui est un texte en langue française. Mmh. Mais ça me semblait impensable de monter un texte tout public, jeune public, enfin tout public, qui met en scène une adolescente sourde sans que ce soit accessible à des sourds. Mmh. Donc oui, c'était dès le départ du projet, il a pu se faire que progressivement pour des questions de moyens, de Covid qui est arrivé au milieu de la création. Enfin, mais l'objet qu'on a, avec lequel on arrive là est depuis le départ de la création le projet. Et tout de suite, ce qui m'a intéressé, puis c'était passionnant aussi à mettre en scène, c'est que les deux comédiennes, celle en langue française et celle en langue des signes française, soient vraiment en jeu de miroir, toutes les deux complètement mises en scène, et voilà, sans priorité du tout d'une langue sur l'autre, ce qui fait que le spectateur, la spectatrice peut complètement naviguer d'une langue à l'autre sans que le regard soit redirigé. Et évidemment, quand on a créé cette version bilingue, on a été très en lien aussi avec un public sourd, et c'est très vite ce qui nous a été le retour qui nous a été fait et qui était heureux, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt contents justement que ce soit pas on traduit un spectacle pour les entendants. C'est très différent, c'est-à-dire que moi j'assume complètement que le spectacle auquel assistent les sourds est un autre spectacle. On ne traduit pas ce que fait la comédienne, on ne traduit pas ce qui est vu au plateau. Eux-mêmes, c'est aussi le choix des instruments de musique, le choix de la musique a été fait en fonction aussi des basses pour qu'ils soient ressenti aussi par les sourds, qu'il n'y ait pas de primauté, c'était très important. C'était aussi un casse-tête parce que comme je suis quelqu'un qui aime sculpter beaucoup les lumières, il faut aller aussi que la langue des signes n'est pas une langue qui peut se parler de dos, qui peut se parler dans l'obscurité, donc
c'est vrai,
c'est à chaque fois un gros casse-tête. Et puis même dans des salles, par exemple comme la magnifique salle de l'Atrium, moi j'ai toujours ce souci de me dire est-ce qu'ils seront assez près, est-ce qu'ils verront assez bien, parce qu'évidemment c'est une langue qui se voit, qui ne s'entend pas, donc effectivement il n'y a pas nous on ne se rend pas compte, mais entendant il y a des moments où on peut décrocher, on peut regarder un peu ailleurs, mais en fait on continue à entendre, on a beaucoup de signes, on a le corps, la vue plus, donc bon bref voilà, mais c'est un enjeu qui est passionnant, et humainement et artistiquement.
C'est intéressant, hein. Il y a quelque part une contrainte, mais la contrainte, c'est pas toujours un handicap. Hein. C'est très créatif, la contrainte en général.
Après, il y a des limites. Parfois, la contrainte est trop. En ce moment, je dis ça pour quand même qu'on ne s'en satisfasse pas.
C'est pas une éloge du masochisme du tout.
Et c'est ce que j'aime dans le théâtre, c'est qu'on a peu de. Avec des bouts de ficelle, on crée. On a beaucoup de contraintes matérielles et on les transcende pour essayer justement d'en faire quelque chose de poétique et de magique.
Très bien. Bon, on va continuer à parler de tout ça. On va faire notre première pause. On se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Alors, nous voilà de retour pour la suite de cette émission. Moi, j'ai déjà une question. Voilà, c'est Maelstrom. Pourquoi Maelstrom ? C'est quoi ? C'est une tempête ?
Oui, c'est des courants marins dans le nord, plutôt. Oui. C'est le titre du texte de Fabrice Melchiot. Et c'est le Maelstrom intérieur de Vera, l'héroïne, enfin le personnage de la pièce. En fait, moi, ce qui m'a plu dans ce texte, j'avais eu une commande du théâtre du Gymnase à Marseille d'un texte jeune public. J'ai un goût pour ce qui n'est pas, ce qui laisse de la place au spectateur, même s'il est enfant, pour penser, pour développer sa propre analyse, et pas d'être trop didactique ou une sorte de ou bien pensant. Je me situe ailleurs. Je le disais tout à l'heure, que je suis pas prof. Et ce que j'ai aimé tout de suite dans ce texte, c'est que c'est vraiment un cri d'une adolescente. Que moi je trouve au-delà de la question de la surdité qui est universelle, c'est-à-dire c'est ce moment de mutation où qui peut être difficile au collège en plus parce qu'on est très très vite moqué, très vite stigmatisé. Ce texte se pose pas du tout comme une analyse. C'est vraiment cette collégienne qui s'est échappée du collège et qui sort ses espoirs, ses rêves, ses tristesses, son histoire, sa colère de façon très brute. Et elle nous le livre sur la scène et chacun y fait son histoire. Et ça me paraissait laisser l'espace à tout le monde, quel que soit son âge et quelle que soit sa façon de vivre, d'y retrouver ou son adolescence ou son histoire. Et puis dans un moment où je trouve que la société fonctionne à plein régime sur la fabrique des identités fixes, des étiquettes. Voilà une adolescente sourde qui secoue tout ça à un âge où on nous l'impose. En fait, on sort de l'enfance, on nous impose ces étiquettes et c'est terrible. On est tellement des infinis, chacun. Et ça, c'est ce maelstrom-là d'émotions et de auxquels on assiste en fait.
Ouais, c'est vrai, cette tempête. Ouais, c'est vrai que des fois, en atteignant un certain âge, on oublie un petit peu cette espèce de feu intérieur qu'on a eu à une époque. Malheureusement, je veux dire, faut essayer de souffler dessus de temps en temps. Mais vous êtes là pour ça aussi, après tout, pour nous le rappeler. C'est vrai. Alors moi, j'ai une citation que j'ai trouvée dans votre dossier de presse à propos de votre position par rapport au théâtre. C'est vrai. S'il y a une fonction accordée au théâtre, ce n'est précisément pas de donner des leçons, mais de donner à penser par soi-même. Voilà, ça c'est une belle phrase ça. C'est une belle phrase.
Ouais. En fait, c'est tant mieux. Ça fait un peu sérieux comme ça. Le théâtre n'est aussi pas une chose que sérieuse. Pour moi, c'est-à-dire que je serais incapable de toutes les façons de faire autre chose que de poser des questions. Mm-hmm. Et ce que je trouve chouette au théâtre, ce que j'aime, c'est qu'on assiste à des êtres, on voit des êtres mm-hmm. évoluer dans des histoires, dans des situations, mm-hmm. et on se donne, ce qui est très beau aussi, on est public, on donne le temps à l'écoute, ce qui est aussi dans le monde actuel pas toujours simple. Voilà, on prend le temps d'écouter un être qui vit devant nous et qui pose peut-être des questions qu'on se pose pas toujours dans notre quotidien. Mmh. Et c'est vrai que je trouve que c'est la place où on est, nous, qui est on est tellement pareil dans un monde qui assigne des vérités ou plutôt des fausses vérités, de faux savoirs, d'affirmations péremptoires, clivantes, que en fait déjà je ne saurais pas faire autre chose que de poser des questions ensemble. Voilà. Et puis là, a fortiori, en plus, comme l'évoquait Cathy, sur la question de la surdité, quelque chose dont on parle peu. Mmh. Voilà. Oui, et Anne disait aussi, pour certains spectateurs, ça va être la première fois. Mmh. Voilà, de le mettre, pensons ensemble à ça. Entendons ça.
Ouais, voilà. Bien sûr. Ouais. Alors c'est vrai que la surdité peut être entre guillemets un handicap un peu invisible. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas échangé avec la personne vue de loin, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire tant qu'on voit pas de fauteuil roulant ou de quelque chose de physique qui saute aux yeux, évidemment, on n'imagine pas. D'autant plus que les gens qui ont des problèmes d'audition, souvent, il y a des époques, je pense par exemple au Moyen-Âge, etc., on pensait qu'ils avaient un déficit intellectuel en fait. Et parce que l'intelligence est souvent assujettie à la communication, hein. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours eu une forme d'ostracisation des différences. Alors dans une société, on a des outils qui nous permettent de combattre cette ostracisation. On est là pour ça aujourd'hui. Mais c'est quand même compliqué. Ça l'est toujours. C'est toujours un combat qui est jamais gagné. En fin de compte, on a parlé aux antennes que ça reste toujours quelque chose de compliqué en fait de présenter aux gens cet aspect-là des choses. La sourdité, la différence.
Oui, les gens n'aiment pas les complications. Mm. Ils n'aiment pas les choses qui sont différentes. Et ça leur demande tellement de sortir de soi et de penser aux autres qu'ils éliminent facilement les différences. Mm. Alors c'est vrai que la surdité, elle est encore plus compliquée, je trouve, parce que je m'intéresse à toutes les différences, mais... elle fait partie, il y en a d'autres, elle fait partie des singularités invisibles. Mmh. Et quand les gens rencontrent des personnes sourdes, comme ils ne savent pas comment communiquer avec eux, c'est pas instinctif et puis ça demande un effort, donc en fait ils s'enfuient, ils s'en vont, ils ont peur. Et et c'est dommage parce que chaque culture a une richesse et en fait, si on creuse un peu, en fait, on s'enrichit tout le temps.
Bien sûr.
Et grâce aux genres différents, justement.
Ça, voilà. c'est certain. Mmh. C'est la richesse de la différence. Mmh. Ben, on va déjà faire notre deuxième pause. On va écouter le Flash Info local, un petit peu de musique. On se retrouve pour la suite de cette émission. Et voilà, de retour. Donc, on a écouté Oshi et donc, une de mes invitées. Cathy m'a appris, en fait, je n'étais même pas au courant, honte à moi, animateur de radio, que Oshi c'était connu qu'elle avait des problèmes de d'audition, qu'elle était en train de perdre l'ouïe, c'est bien ça?
Bon, je ne vais pas faire un diagnostic médical,
bien sûr.
Mais elle a fait cette chanson, Fais-moi signe,
oui,
pour des problèmes petit à petit, oui, elle a des problèmes d'audition.
Oui. Bon, ce qui est fâcheux pour un musicien, mais bon,
voilà. Oui.
C'est pour tout le monde d'ailleurs.
Oui.
Ouais. Très bien. Alors on va continuer à parler de cette pièce. Alors donc on va s'intéresser un petit peu à la scénographie, même bien si on va pas spoiler les choses, on restera dans la limite imposée par l'invité. Mais c'est vrai c'est un petit peu. On parlait de l'adolescence, Maelstrom. Hein, c'est des personnalités qui sont en chantier et la scène aussi, paraît-il.
Oui, oui, bah en fait, moi, ça m'intéresse toujours d'être dans des scénographies qui soient pas réalistes. C'est aussi, je trouve que l'avantage du théâtre par rapport au cinéma, c'est qu'on peut vraiment être onirique et sur des installations plus plastiques ou voilà. Et ça m'est vraiment venu assez vite par le texte, c'est-à-dire qu'il y a un moment du texte où elle dit qu'elle aime les terrains vagues. Mmh. Les terrains vagues, ça disparaît des villes. Moi, je suis un peu de cet avis aussi, et parce que c'est des terrains où tout est possible, ou que tout le monde peut s'approprier aussi.
Oui.
Et qu'elle-même se sent comme ce terrain vague ou en friche, mmh. où tout est encore en construction et possible.
C'est vrai.
Et donc c'est parti de cette idée-là. Comme en plus elle expliquait qu'elle dit qu'elle s'est enfuie du collège, qu'elle est dans le coin d'une rue. Dans l'histoire, et ça c'est pas très important, mais c'est quand même une rue, le rue d'une ville, et ces villes galopantes, très, c'est plutôt voilà, une histoire urbaine, oui. avec aussi toutes les nuisances sonores que ça implique.
Bien sûr.
Et donc l'image du chantier, enfin en tout cas de l'échafaudage, est arrivée assez vite, d'abord pour des questions de moyens, comme je parlais des bouts de ficelle du théâtre, et ce souci aussi de toujours faire de la récup, ça c'est écologique, et puis donc ça m'intéressait parce que un échafaudage, ça se trouve, ça c'est voilà, donc on a un vieil échafaudage de récup, et que il y a à la fois quelque chose de très brut qui est pas joli, et en même temps selon l'éclairage tout à coup ça devient des lignes, ça devient graphique, très très graphique, et puis ça crée des zones de jeu. C'est toujours la question de la scénographie, c'est comment créer différentes zones de jeu, puisqu'on est au théâtre, non pas comme au cinéma, on peut faire des travelling et partir, mais là on a la boîte noire, donc on est comme dans un plan fixe. Et donc, c'est comment créer différents plans dans un plan fixe. Voilà, mais c'était un peu ça.
D'accord. Et comme vous disiez, donc, il y a forcément une importance grande de l'éclairage, puisque, comme vous disiez, le signe, il faut qu'il soit visible de tous.
C'est ça. Alors en plus, la difficulté, c'est qu'on l'avait créé, on a créé donc cette pièce pendant le confinement, d'abord sans pouvoir avoir la comédienne en langue des signes. Mmh. Donc on avait fait, comme c'est vraiment un espace, pour moi, c'est complètement un espace intérieur. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce cri de colère dont on parlait, et qu'on ne sait pas tout à fait quand est-ce qu'elle parle de la réalité, et peu importe. Et on a vu, comme nous, dans nos colères, ou dans nos ressassements, ou dans nos rêves intérieurs, on navigue entre ce qu'on, voilà, entre plein de choses différentes. Mmh. Et donc j'aimais que d'abord je trouve que le travail de lumière, c'est toujours passionnant au théâtre, c'est très voilà, très beau, et j'aimais l'idée qu'elle soit qu'on soit nous-mêmes pris, il faudrait parler du son aussi encore plus, mais qu'on soit nous-mêmes pris dans cette rêverie intérieure où on ne sait plus tout à fait où est le réel, et peu importe en fait. Voilà, et donc la lumière permettait ça, de suivre ces élucubrations intérieures, voilà, dans un espace qui soit plus un espace psychique ou que réaliste.
Une petite, d'autres petites cavernes de Platon qu'on a tous à l'intérieur.
Oui, c'est ça.
Et voilà, parlons-en, on a parlé de musique, oui, c'est vrai, alors du coup, ça peut surprendre, mais c'est vrai que donc il y a aussi y a quelqu'un sur scène qui fait de la musique. Voilà.
Oui, en fait, il y a eu tout un travail sonore dès le départ, alors qui, selon les configurations et les salles, on peut faire plus ou moins évoluer. J'avais, et ça, c'est Cathy, tu y as fait référence tout à l'heure. Il y avait une chose, donc dans le texte de Fabrice Melchiot, Vera est appareillée. Donc c'est aussi particulier, parce qu'il y a des sourds qui ne le sont pas.
Oui.
Et donc, elle est appareillée depuis la petite enfance. Donc elle entend, mais avec un appareil. Et entendre avec un appareil, ça n'est pas entendre avec des oreilles. Et j'avais très envie qu'au-delà du texte, on plonge le public dans une expérience vraiment sensorielle de ce que peut être entendre différemment, entendre avec un appareil. Donc on a fait avec le créateur sonore Joseph Amerveil, qui avait créé au départ toute la bande son, avec Léo, qui est compositeur et qui est sur scène, tout un travail sur qu'est-ce que c'est que cet appareillage, comment on entend. Alors on a écouté beaucoup et beaucoup rencontré sur des témoignages. Lui, il a fait vraiment un travail, voilà. Et donc, pour essayer vraiment de plonger avec des sons mêlés, des sons trop forts, parce qu'évidemment, c'est un apprentissage que de trier dans tous les sons qu'on entend. Enfin, j'en parle moins bien que sans doute que Cathy, mais et je me disais que voilà, nos outils à nous, c'est de partager ça, c'est-à-dire pendant une heure de plonger le spectateur lui-même dans parfois des cacophonies, des silences, des sons métalliques, des dysfonctionnements qui sont en fait aussi très fatigants. C'est-à-dire, ça demande une énergie, tout comme l'attention visuelle à des lèvres, et c'était, j'avais envie de faire ressentir ça au public. Et puis est arrivée assez vite aussi la musique, d'abord de par le texte qui est assez fragmenté, c'est-à-dire comme quand on pense parfois, on a des sauts dans la pensée, donc il y avait de l'espace. Et ça m'intéressait que le garçon dont elle parle, donc parce qu'elle a été conduite par un garçon au collège sous prétexte qu'on ne peut pas fréquenter une handicapée,
oui.
Enfin que c'est la honte, quoi. Et que cette présence-là, à la fois fantasmée, parce qu'on ne sait pas fantasmée et réelle, de cet autre que serait ce garçon entendant, soit présent au plateau. Et ça m'intéressait qu'il y ait de la musique, soit là aussi comme cet autre de la surdité qui serait là.
Mmh.
Et de travailler, par contre, avec des fréquences qui soient perceptibles par un public sourd.
Mmh.
Donc, on a beaucoup travaillé avec un sub, et travaillé avec des instruments. Donc, il y a notamment un sous-bassophone qui vibre, en fait.
Mmh.
Voilà. D'ailleurs, Claude des ATP, qui avait partie d'une peña avec qui on a discuté, racontait qu'un jour, il est arrivé dans un village. Non, c'était pour la feria de Bayonne, je crois. Ils arrivent avec toute la peña.
Mmh.
Et ils sont très applaudis par un public. Et en fait, c'était un groupe de sourds. Et comme ils travaillaient... Enfin, la fanfare, c'était des cuivres avec des basses. Enfin, mmh. Vraiment sur la même chose qu'on a fait ce spectacle. Ils avaient ressenti la musique fort.
Mmh.
Et ça, je trouve que c'est aussi de dire, en fait, on peut avoir d'autres expériences que par les oreilles,
oui.
Des vibrations.
Oui, par le corps, oui.
Voilà. Mmh. Et donc, en fait, c'est un spectacle qui est tout aussi musical, qui tisse ensemble, voilà, les deux. Et, comme tu y as fait allusion aussi... Du coup, ça devient du chant-signe, c'est-à-dire que Lucie, la comédienne, elle-même fait de la musique avec la langue des signes, c'est-à-dire qu'il existe ce chant-signe qui est une façon j'ai pas envie de traduire parce que c'est pas juste de faire de la musique ou faire de la poésie, c'est plutôt du slam et la poésie qui est développée en langue des signes.
Ouais.
Non, elle a développé du coup quel signe traduit ou rend compte de l'émotion de tel ou tel morceau.
D'accord.
Et ça se développe de plus en plus, de la poésie ou du slam en langue des signes.
Ah, oui,
c'est très très beau le chant signe.
Ah oui, bien sûr. Ouais, là, j'allais dire que voilà, cette histoire de signes, c'est très 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 théâtral, du coup, cette manière de puisqu'en fait les comédiens ils parlent en général, mais ils bougent leur corps aussi. Ça fait partie de la communication non verbale. C'est très très important au théâtre. Mais là, c'est vrai que on a, j'allais dire, la chance d'avoir en plus cette importance-là du corps qui paraît.
Oui, c'est même, moi je trouve que le travail du comédien, c'est même comment la langue, quelle que soit sa langue, parce que c'est une langue comme le français, comme les langues, enfin pour moi, c'est une culture au même titre, comment les langues sont incarnées, c'est-à-dire traversent nos corps, notre souffle, et pas simplement comme on l'utilise un peu juste en haut de la tête, quoi. Et donc, évidemment, la langue des signes, de fait et d'emblée, c'est une langue qui passe à travers le corps. Donc, je dirais pas qu'elle est plus théâtrale que les autres langues, c'est une langue, au même titre, et qu'il y a pas... Mais par contre, c'est une belle leçon de théâtre que de voir quelqu'un en parler, parce que c'est comment une langue passe par tout le corps, et tout le corps est engagé. Quelqu'un qui parle la langue des signes, il peut pas parler du bout des lèvres, ou du bout du cerveau. Le corps est engagé, et il y a une physicalité très forte, mais qui est une très belle leçon quand on fait du théâtre, ça c'est sûr.
D'accord, mais je pense que c'est le genre d'argument qui peut donner envie à des gens qui ne connaissent pas les langues des signes. Moi, j'avoue que moi-même, je serais bien incapable d'interpréter quelques signes que ce soit, mis à part les signes urbains qu'on utilise tous dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas tous toujours très courtois. Mais je pense que ça peut être une chose qui peut donner envie à des gens d'aller voir, mais tiens, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est, comment ça bouge, le corps, les mains, les doigts. Je pense que c'est l'occasion de rencontrer ce phénomène. Alors, j'ai une petite question aussi pour Cathy, c'est cette différence là, cette différence des malentendants. Est-ce que les réseaux sociaux les aplanissent pas un petit peu dans la communication non verbale, donc les jeunes qui s'envoient beaucoup de messages, de textos, etc. Est-ce que ça coupe un petit peu de la séparation qu'il peut y avoir entre des entendants et malentendants, ou est-ce que c'est juste l'amplificateur des différences?
Alors, je ne vais pas dire que c'est un amplificateur de différence. Alors, au contraire, c'est un outil quand même qui a été révolutionnaire pour les sourds, puisque le téléphone, filaire, on ne pouvait que entendre. Alors que là, on peut faire des visios, on peut s'envoyer des messages, ils peuvent communiquer ou, sur des informations sur les réseaux Facebook, Instagram, etc. Donc, je pense que c'est quand même un progrès par rapport à leur intégration dans la société. Et j'espère que les outils vont pouvoir encore évoluer et que ça sera encore plus facile pour eux. Parce qu'il y a quand même des appels téléphoniques, par exemple. Il y a des plateformes qui traduisent en... Bon, on le connaît, nous, hein, les entendants, c'est-à-dire qu'on parle... Et c'est écrit. Donc, si on leur parle lors d'un appel téléphonique, ben, ils peuvent lire un texte. Bon, il faut qu'ils sachent bien lire la langue française, mais c'est quand même un progrès. Donc, bon, les réseaux sociaux et tous les systèmes de communication, je ne sais pas où. Je n'ai pas très bien compris votre question, en fait, par rapport à l'aplanissement de...
Eh bien, justement, ça permet de communiquer peut-être comme mieux qu'avant, parce qu'on peut communiquer de manière visuelle ou textuelle. Mais cependant, comme en fait, en ce moment, on en parle beaucoup, c'est aussi un vecteur de harcèlement aussi chez les jeunes. Donc, du coup, c'est pour ça que je parlais d'amplification de différence. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Je n'ai peut-être pas bien précisé le contexte de ma question.
Par rapport au harcèlement.
Oui, ça a le double effet, on va dire.
Voilà. Bah, comme tous les autres, je pense. Il faut bien penser quand même que ce sont des citoyens comme tous. Tous pareils.
Oui.
La seule différence, c'est la langue. Mais donc, la communication. Mais la communication écrite ou elle est la même pour tout citoyen, tout jeune. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait le harcèlement, ils peuvent l'avoir dans la cour de l'école ou dans la rue de la même manière.
Très bien. On va faire notre dernière pause et atteindre la dernière partie de notre émission. Voilà, on se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà de retour. Donc, c'est pas tout, c'est que le temps passe. C'est qu'il y a deux spectacles aujourd'hui.
Oui, il y a deux représentations.
Donc ça, c'est quand même, c'est pas rien. On va faire quand même les rappels. Donc, du coup, évidemment, le Théâtre de l'Atrium de Dax. Ça, c'est quand même un bel endroit, un bel écrin, toujours, toujours, qui accueille des perles différentes à chaque fois, mais c'est bon.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est à quelle heure, donc, première représentation?
La première représentation est à 14h30. Elle n'est pas réservée qu'aux scolaires, elle est aussi réservée au public qui souhaiterait y assister. On les accueille avec un très très grand plaisir. Donc, s'il y a des gens, ils peuvent se présenter voilà, à partir de 14h15, sans aucun problème. Donc, à l'Atrium, cet après-midi.
Très bien.
Et la deuxième est à 20h30.
Oui.
Voilà. La salle est déjà très, 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 très remplie. Alors, il y a encore des disponibilités. Oui. Donc, pas de problème pour réserver sa place, soit à l'Office du Tourisme, par leur site internet ou au guichet. Plus du tout par téléphone. Ou bien sur le site Hello Asso de l'ATP de Dax.
D'accord. Très bien. Eh bien, Marie, un dernier mot avant de nous séparer. On va découvrir Vera et ses compagnons de scène tout à l'heure.
Ouais, voilà. Bah, redire à quel point je suis heureuse et puis toute l'équipe Léo aussi d'être ici. Merci encore à Cathy et à Anne d'avoir rendu ça possible. Et nous, c'est le plus beau moment, là. Ce qu'on vit, c'est à la fois... Là, on est dans les derniers réglages et le stress. Oui. Mais savoir qu'on va partager avec deux salles presque remplies, avec autant de monde loin de chez nous. Enfin, voilà, c'est le moment le plus important qu'on va vivre là, avec les échanges ensuite.
Oui.
Et on est très heureux qu'il y ait un public sourd aussi. C'est très, très important pour nous qu'il y ait un mélange et qu'on puisse discuter tous ensemble ensuite. Donc juste la grande joie d'être ici à Dax et un grand merci aussi.
Très bien. Cathy, est-ce que vous serez là lors de la représentation?
Mais oui, oui.
La question piège.
Je l'attends tellement, j'ai même du mal à y croire tellement. J'ai attendu ce moment et comme il devient réalité, c'est vrai que c'est... C'est un moment plein d'émotions et oui, je serai là, oui, bien sûr.
Aux deux représentations.
Oui.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous partager tout ça, parce que c'était passionnant, et j'espère que nos auditeurs,
qu'ils n'hésitent pas.
Oui, foncez, ne loupez pas ça. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.
Au revoir.